Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc dans nos lectures en liberté et la suite du roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Anthony retraversa la maison. Le salon était vide maintenant, et il avait un peu l'impression de visiter une scène de crime. Les canettes, les mégots, un vinyle qui tournait dans le vide, et les enceintes qui émettaient ce petit hoquet crachotant des fins de disque. Déjà le ciel avait pâli. Il fila à travers le jardin. Curieusement, la piscine était impeccable, d'un bleu de cuvette, irradié et factice. Il se posta une seconde sur la margelle, résistant à l'envie de plonger, bercé par le clapotis minimal. Au fond de l'eau, on pouvait voir un bas de maillot ou une petite culotte. Il pensa à Steph. Il ne l'avait plus vue après la baignade, il s'en foutait de toute façon. Il cracha dans l'eau. Il était crevé, c'est tout. Hé ! Il se retourna vivement et trouva le cousin qui lui faisait signe depuis la terrasse. Et il portait un t-shirt qui ne lui appartenait pas. Anthony le rejoignit en traînant des pieds. Ils prirent le chemin de la sortie. « Il va faire jour. T'étais où ?»«
Nulle part, » dit le cousin.
« T'as revu Steph, non ?»«
C'est quoi ce t-shirt ?»« C'est rien. »
Anthony avait mal à la tête. Un coq chanta. Ils arrivèrent derrière le tas de bois où il avait laissé la bécane quelques heures plus tôt. Dans une autre vie, quasiment.
Elle n'était plus là.
Anthony en tomba à genoux. Un peu plus tard dans la matinée, Hassine avait rendez-vous au rez-de-chaussée de la mairie d'Ayange, dans un bureau d'aspect vétuste. Il n'avait presque pas dormi. Il avait froid. Il faut dire que la mairie occupait les locaux d'une ancienne école primaire, ce qui expliquait ses couloirs interminables, les cages d'escalier pleines d'échos et cette fraîcheur de château fort. D'ailleurs, ceux qui travaillaient là ne venaient jamais sans une petite laine. Hassine n'avait pas pris cette précaution et il se les gelait. À force, ça le rendait nerveux. Déjà qu'il aurait préféré se trouver ailleurs. Face à lui, une jeune femme aux yeux thyroïdiens était occupée à examiner son CV. Elle portait des boucles d'oreilles fantaisie. Par moments, elle faisait un commentaire ou posait une question. Sur ses boucles d'oreilles, on voyait un petit éléphant ou un chat, c'était difficile de savoir. Sans lever les yeux, elle lui demanda. « Là, par exemple, t'as voulu dire quoi ?» De l'index, elle pointait un alinéa situé sous la rubrique « Centre d'intérêt ». Hassine pencha la tête pour déchiffrer.
« Bah, c'est de la boxe ?»
dit-il sobrement.
« Ah bon ?»
Après sa licence, la jeune femme s'était spécialisée en droit du travail, cursus qui se prévalait de taux d'employabilité dignes des années 1960. C'est par là notamment qu'on accédait aux métiers relevant de la gestion des ressources humaines, secteur resté en plein essor depuis 30 ans, malgré la notable raréfaction de l'emploi qui avait caractérisé la même période. D'ailleurs, une fois diplômé, bac plus 5, il ne lui avait pas fallu 2 mois pour trouver un poste. Du coup, il avait tendance à considérer le chômage comme l'une de ces menaces abstraites dont il est surtout question au JT, type épidémie de paludisme, tsunami, éruption volcanique. Pour l'heure, elle initiait Hassine au raffinement de la mise en valeur des compétences. Le jeune homme coopérait modérément. La jeune femme reprit. Cette histoire de boxe ne la laissait pas indifférente. « Et tu le dis comment ?»« Muay Thai, c'est de la boxe Thai, quoi. »« Tu crois que c'est bien de mettre ça ?»«
Bah, c'est du sport, » répondit Hassine.
« Ouais, mais tu vois, avec ton profil... » Hassine se renfrogna. Chez lui, ça consistait à adopter simultanément un air dédaigneux et une moue qui le faisait ressembler à un canard. L'ombre de moustache qui agrémentait sa lèvre supérieure finissait de le rendre étonnant. La jeune femme sourit.
« Bah, tu vois ce que je veux dire ?»«
Oui. »« Bon. Il a compétences informatiques, tu peux préciser ?»«
Bah, les trucs sur l'ordi. » »«
Tu as un ordinateur à la maison ?»«
Oui. »
Le garçon avait crocheté ses pieds aux pattes de sa chaise. À chaque fois qu'il bougeait, ça crissait sur le sol de mosaïque. Il tâchait donc de rester tranquille. Combien de temps ça allait durer encore, ces conneries ?
Bah, donne-moi des exemples. Tu sais faire quoi ? Word, Excel ?
Bah, un peu tout.
Bah, c'est important de préciser, tu vois. Tu proposes des compétences, en fait. C'est ça que tu vends, par exemple. Tu maîtrises les outils de bureautique.
Ouais. Je fais du code aussi, Turbo Pascal, des trucs comme ça.
Bah, c'est bien, ça. Bah, c'est super bien, même.
Le compliment le blessa.
Elle croyait quoi, cette conne ?
Qu'il savait juste appuyer sur le bouton Power ? Du coup, le verrou se ferma.
Dommage.
Elle aurait sûrement bien aimé l'histoire édifiante du môme qui va chez Microphone tous les samedis matins. Cette petite boutique située en bas de la côte de la ZUP récupérait du vieux matos informatique pour le refiler à des écoles, des indigents ou revendre au poids. L'Amstrad 6128 coûtait encore plus de 3000 balles et ni Hassine ni aucun de ses potes n'avaient les moyens de s'offrir ce genre de matos. Alors, ils allaient chez Microphone. Ils passaient des heures à dépiauter des tours IBM obsolètes, s'échangeaient des processeurs, des conseils. Son prof de techno de quatrième lui avait même donné un coup de main pour souder certains composants. Il avait fini comme ça par se monter une tour potable, suffisamment puissante en tout cas pour jouer à Double Dragon. Depuis, il avait plus ou moins laissé tomber. En y réfléchissant, il avait à peu près tout laissé tomber depuis quelque temps.
« Et donc, t'es allé à Francfort ?»
il confirma d'un signe de tête.
« Londres et Bangkok,
oui.
Bah, t'as pas mal voyagé pour ton âge. »
Elle le regardait avec un sourire aimable en se tripotant une boucle d'oreille. Peut-être que c'était un sourire narquois, en fait. Elle devait le prendre pour un mytho.
De fait, il n'avait jamais mis les pieds à Francfort. Bah, qu'est-ce qu'il serait allé foutre à Francfort ? N'empêche, ça ne l'autorisait pas à douter, la pute.
Tu parles anglais ? Il fit un mouvement de tête qui pouvait vouloir dire oui.
« Ok, de toute façon, tout le monde met ça, » dit la fille, étonnamment ragaillardie.
Le téléphone se mit à sonner. Elle laissa planer une main indécise au-dessus du combiné, le temps de 3 sonneries. Hassine était de plus en plus tendu.
Bah, « C'était un test ou quoi ?»«
Allô, oui, bonjour, oui ?»«
Bien sûr, oui. »
Ces oui étaient traînants, maternels, en fait. Elle donnait l'impression de s'adresser à un demeuré. Quelque part, Hassine y trouva le motif d'un certain réconfort. Elle parlait comme ça à tout le monde, en fait.
« Bien sûr, monsieur, mais rappelez-nous à la rentrée, à ce moment-là, oui, voilà. »
Elle faisait des mimiques, prenant Hassine à témoin.
Pas les gens avaient de ces questions.
Après avoir conseillé à son interlocuteur de voir avec la NPE, elle raccrocha.
« Ah, c'est toute la journée comme ça !»
Il y eut encore quelques questions. Le CV de Hassine comportait tout de même pas mal de mentions suspectes. Certes, tout le monde filoutait, mais il importait de rester modeste. Les voyages transatlantiques, l'anglais, les stages dans des ministères où la passion du bénévolat pouvait, selon les cas, éveiller les soupçons. Surtout, ce qui l'ennuyait, c'était cette histoire de boxe-taille. Tu vois, surtout de là où tu viens. Mais pour le job, fit Hassine, vous avez un truc ou pas, finalement? Comment ça? Ben, je sais pas, c'est mon père qui m'a dit de venir à la mairie. Il a dit que vous aviez du travail. Ah mais non, pas du tout. Ton père est venu voir le maire à sa permanence. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Nous, on s'occupe juste de l'orientation. On fait de l'aide au retour à l'emploi. Donc, il n'y a pas de job, en fait. Ben, il doit y avoir un malentendu. Notre rôle, c'est d'aider les gens à se mettre en valeur, reprendre confiance. On les aiguille pour leur CV, trouver une formation. On peut aussi les coacher. En plus, t'as même pas 18 ans. Hassine en convint. Il était vachement tenté de lui demander ce qu'il foutait là, tout d'un coup. Oui, alors mineur en plus, on n'a rien. Et en été, laisse tomber. Au moment où il se cassait, elle insista pour le raccompagner, puisqu'elle voulait fumer une clope dehors. Et comme ça, il était sûr de ne pas se perdre. Les lieux étaient quasi déserts, et dans les couloirs vides, les escarpins de la jeune femme produisaient un claquement managérial assez intimidant. À l'inverse, son attitude était devenue carrément cordiale, limite familière. Elle était jeune, après tout, ouverte d'esprit. Il y avait moyen de s'entendre. Arrivée sur le trottoir, elle lui serra la main avec un plaisir manifeste et puis, sans crier gare, son visage s'assombrit. Bah, j'ai oublié de te demander, tu checkes ? Hassine ne comprit pas tout de suite. Genre, tu sais, les trucs là. Et comme elle ouvrait la main, il fut bien forcé de taper dedans. Parce que j'ai rencontré des employeurs l'autre jour, tu vois, ils étaient hyper décontenancés. Ils ont des jeunes, des fois, qui checkent au boulot, avec tout le monde. Tu vois, ça le fait moyennement. Hassine se demanda si elle se foutait de sa gueule. Apparemment pas. Je vais devoir y aller, ouais, bien sûr. Il aurait pu prendre le bus en face. Avec la 11, c'était direct jusqu'à chez lui. Mais il se dit qu'elle allait vouloir lui tenir compagnie, il préféra rentrer à pied. Dans son dos, il sentit qu'elle le regardait jusqu'au moment où il tournait le coin de la rue. Heureusement, il y avait des poches. Il pouvait mettre ses mains dedans.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles.
te jure.
Paroles, 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 encore des paroles que tu sais, maman.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais, maman.
Que tu es belle. Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais, mon mot.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons au roman de Nicolas Mathieu après l'instant habituel et musical. Sur le chemin, Hassine s'arrêta dans une boulangerie pour acheter un coca et deux croissants. Puis il grimpa la côte, en avalant son petit-déj. Il faisait déjà chaud, et la fraîcheur du coca avait quelque chose de miraculeux. Bientôt, il aperçut Elliot, qui glandait sur la dalle. Comme chaque année, des forains avaient monté une piste d'auto-tamponneuse et une petite cahute qui vendait des gaufres. Hassine et ses potes squattaient là, à longueur de journée. Quand il le vit, Elliot lui adressa un signe de la main et Hassine le rejoignit sans se presser.
« Ben c'est quoi cette merde ?»
fit Hassine en foutant un coup de pied dans la roue du fauteuil d'Elliot. « J'ai plus de batterie. » Le moteur est naze, de toute façon j'ai ressorti le vieux.
Ben relou, trop.
T'as fait comment pour descendre? Je me débrouille, t'inquiète. Elliot mettait un point d'honneur à ne pas faire chier le monde avec son handicap. Même, c'était plus ou moins devenu un avantage. Une fois la BAC avait déboulé dans le hall de la Tour Manet pour un contrôle d'identité. Elliot était chargé comme une mule et non seulement les keufs ne l'avaient pas fouillé, mais ils l'avaient porté jusqu'à l'entresol pour prendre l'ascenseur. Elliot leur avait fait remarquer qu'il fallait vraiment être con pour coller un escalier juste avant l'ascenseur. Les types avaient admis, emmerdés, à croire qu'ils avaient conçu les plans eux-mêmes. « T'as des news ?» demanda Hassine. « Rien de neuf. C'est mort de mort. Si on touche pas demain, il n'y aura plus rien. » Depuis que les Meriem étaient hors-jeu, les problèmes d'approvisionnement en shit atteignaient un niveau critique. Hassine avait même contacté son frangin qui vivait à Paris. « Et ton frangin ?» demanda Elliot justement. Hassine haussa les épaules. Ils restèrent un moment silencieux, puis Elliot reprit. « T'es allé en ville ?»«
Ouais,
quoi faire ? Rien de spécial. » Elliot n'insista pas, et Hassine vint s'asseoir sur le muret tout proche.
« Bah ça chauffe grave, déjà !»«
Ouais !» Hassine se mit à contempler les décorations qui ornaient le manège. Michael Jackson, les loups-garous, une momie, Frankenstein. C'était criard et beau, avec des ampoules qui mettaient des couleurs à la nuit tombée. Depuis quelques années, les autres attractions ne faisaient plus le déplacement. Assine aimait bien la barbe à papa. Progressivement, la température grimpa et les deux garçons allèrent se mettre à l'ombre sous le préau des boulistes. De là, ils pouvaient voir venir les clients. Depuis deux jours, tous repartaient bredouilles. Alentour, les immeubles se dressaient indifférents et cubiques. Un peu de poussière lévitait dans la lumière. À l'heure du déjeuner, les autres commencèrent à rappliquer. En général, la bande comptait une petite douzaine de mecs. Il y avait Jamel, Seb, Mousse, Saïd, Steve, Abdel, Radouane et le petit Kader. Tous habitaient le quartier. Ils se levaient tard, descendaient à pied ou venaient en scout. Ils restaient un moment, retournaient à leurs histoires, revenaient. Il se produisait ainsi une rotation continue de visages familiers, un roulement de copains qui rompait la monotonie du trafic. Quoi qu'il en soit, dans l'après-midi, on comptait en permanence cinq ou six garçons qui patientaient interminablement sous le préau, adossés au mur, assis sur un muret, crachant par terre et fumant des joints. Il y avait aussi les grands qui venaient taper la discute. Une poignée de main, la main sur le cœur, quelques mots vite faits à la famille. « ça va, bien ou quoi ?» La plupart s'étaient rangés. Ils faisaient désormais de l'intérim, avaient un petit CDI chez Carglass ou Darty. Samy venait d'ouvrir son kebab près de la gare. On lui demandait « comment ça va les affaires ?» Même s'il faisait bonne figure, on devinait l'anxiété, cette continuelle hantise de la banqueroute. Lui qui avait été le plus important grossiste de la vallée, il roulait désormais en 205, mal à l'aise. Les garçons promettaient de passer plus tard et Samy repartait bosser, ses poignées d'amour boudinées dans un t-shirt de l'OM avec ses deux gosses et son crédit. Ensuite, les petits revenaient de la piscine, passaient en biclou. On se charriait vaguement, mais grosso modo, il n'y avait quand même pas grand-chose à foutre en attendant l'ouverture du manège. Souvent, la chaleur et l'ennui vous montaient à la tête, comme un alcool. Il arrivait même qu'on en vienne aux mains par langueur, par désœuvrement. Puis le calme retombait. L'assommoir. Bientôt, le petit Kader arriva sur son scout. Il ne portait pas de casque et conduisait en claquette. Il fit une roue arrière pour la forme. Seb aussi était là, sa casquette 49 enfoncée jusqu'aux oreilles.
Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Bah, qu'est-ce que tu veux faire ?
Je sais pas, on bouge.
Bah t'as qu'à bouger, toi.
Non, mais ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? Sérieux ?
On se prend un pack ?
Ouais.
Vous me cassez les couilles avec vos packs, dehors, comme des clochards.
Puisque Assine avait parlé, il n'y avait plus rien à dire. Depuis le début des vacances, il était d'une humeur de dog. On pouvait le comprendre. Son scout avait rendu l'âme en juin, et depuis, il devait marcher comme un galérien. Ça avait commencé avec l'allumage. Et puis tout à coup, cylindre, piston, segment, les bougies, tout était parti en couille. Avec cette pénurie de shit en prime, ça devenait vraiment compliqué de mener une vie raisonnable. Assine cracha entre ses incisives. Plus personne ne bronchait. Elliot prit sur lui de rouler un spliff. Un peu après 15 heures, le temps devint comme une pâte grasse, étirable à l'infini. Chaque jour, c'était pareil. Dans le creux de l'après-midi, un engourdissement diffus s'emparait de la cité. On n'entendait plus ni les enfants, ni les téléviseurs par les fenêtres ouvertes. Les tours même semblaient prêtes à s'affaisser, hésitant dans les brumes de chaleur. Par instant, une mob quittée pratiquait une incision bien nette dans le silence. Les garçons clignaient des yeux et essuyaient la sueur qui venait noircir leurs casquettes. Au-dedans, la nervosité marinait sous son couvercle. On était somnolent, haineux, et ce goût acide du tabac sur la langue. Il aurait fallu être ailleurs, avoir un travail, dans un bureau climatisé, peut-être, ou alors la mer. De son côté, Hassine se faisait du mouron. Depuis le matin, il n'avait pas vu 10 clients. De nouvelles sources d'approvisionnement avaient dû voir le jour. L'offre et la demande obéissaient à des lois magnétiques et s'étaient sans doute trouvées ailleurs, comme des amants contrariés. Si la pénurie se prolongeait, Hassine et ses potes seraient de la baise. Ils perdraient tout. Et il avait beau laisser entendre que son frère pourrait les dépanner, dans le fond, il n'y croyait pas. Ce fils de pute faisait du bis pour de vrai, avec des mecs de Bobigny. Il vivait en région parisienne et n'était plus venu à Hayange depuis 3 ans, facile. Il ne retournait pas les coups de fil. Il ne fallait pas compter dessus. Si ça continuait, il faudrait s'adresser aux grosses têtes. Ces gens-là avaient toujours des combines, des filières, mais l'idée ne lui plaisait pas du tout. Dealer avec ces gens-là, c'était vraiment chaud. Ils étaient capables de tout. Ils baisaient entre eux, d'être dégénérés, rien que d'y penser, Hassine se sentait mal. Il remuait tout ça dans sa tête quand Fred se pointa. C'était un de ces fonce-dés authentiques, toujours mou, toujours affable. Hassine ne pouvait pas le blairer, surtout que ce déchet se permettait d'être familier parce qu'il avait jadis connu les cousins Boily, ceux qui, les premiers, avaient organisé les circuits du shit à Hayange dans les années 80. « Salut mon frère, » dit Fred. « On n'a rien, tire-toi. » Tout se déroula comme d'habitude. Fred fit la sourde oreille. Hassine devint de plus en plus monosyllabique. Fred se mit à supplier. « Ingrate, juste ingrate !» Des insultes fusèrent. À la fin, il y eut des menaces et Fred consentit à décamper, misérable et lent. La sobriété était sa hantise. Il n'avait rien trouvé à faire de sa vie, ni métier, ni femme, ni crime. Hébergé chez sa mère, il durait pauvrement. Grâce à Dieu, cette dernière alimentait une copieuse pharmacie où Fred se consolait quand il n'avait plus rien à fumer. Les médecins ici étaient complaisants. Toute la vallée était en soins palliatifs quelque part. Il paraît qu'il a le das en plus, fit Elliot en regardant l'invertébré disparaître. Mais c'est des conneries. Ben, il est en train de crever, ça se voit. Ben qu'il crève, ce fils de pute. Nous avons terminé pour ce soir la suite de ce roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Cuillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.